carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Frédéric Vitou, merci beaucoup de répondre à quelques questions. Vous intervenez au Festival de Fès sur la mémoire émotionnelle. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème et qu'est-ce qu'il vous évoque en tout premier lieu?
Ce titre n'a pas été choisi par moi, mais par les invités, plutôt par la puissance invitante qui souhaitait ce thème qui ne me déplaisait pas. Je pourrais mal le développer. Moi, je préférerais parler de voyage intérieur. Parce que le thème du festival, c'était un peu le voyage. Et je crois que, pour citer un peu un grand poète du romantisme allemand, Novalis, il dit « Le chemin mystérieux va vers l'intérieur. C'est en nous, sinon nulle part, qu'est l'éternité avec ses mondes, le passé et l'avenir. » Donc, ce qui m'intéressait, en parlant de mémoire émotionnelle, c'est plutôt ce travail qui est, ou cet exercice, ou ce souhait, ce désir, ce besoin de tous les écrivains, disons, de faire un pas de côté, de se retourner et de regarder derrière eux pour voir d'où ils viennent. Et cela, ça s'appelle, pour moi, le voyage derrière, le voyage intérieur, le voyage vers ses racines, vers ses parents. Qu'est-ce qu'on doit aux uns et aux autres? Quels sont les refus que l'on a? Quelles sont les adhésions que l'on a? Comment on s'est formé vis-à-vis d'eux? Alors naturellement, ce n'est pas un voyage purement cérébral, c'est un voyage affectif. Donc le mot mémoire et le mot émotion sont des mots qui me conviennent. Si naturellement j'avais hurlé d'horreur à l'idée de ce titre de mémoire émotionnelle, je n'aurais pas accepté ce titre. On me l'a proposé, je l'ai accepté, mais le mot mémoire émotionnelle, euphoniquement, ne me plaît pas beaucoup, mais je comprends ce qu'il veut dire. Voilà, l'écrivain, c'est quelqu'un qui se souvient. C'est la différence entre le romancier, au fond, et l'essayiste. C'est que l'essayiste aussi fait un pas de côté, mais il regarde derrière lui pour mieux comprendre le monde afin de regarder devant lui. L'essayiste, le philosophe, l'historien même, d'une certaine manière, regarde aussi devant. Je pense que l'écrivain regarde surtout derrière lui. Et c'est ce regard rétrospectif qui me touche. On peut être un grand écrivain d'avenir en étant un nostalgique inguérissable. Moi, je prends toujours comme exemple Céline, par exemple, que j'ai été amené d'ailleurs à évoquer plusieurs fois sur les ondes de Canal Académie. Enfin, je dis les ondes, c'est pas le mot qui convient d'ailleurs. Sur leur site et sur leur réseau et sur l'électronique de Canal Académie. Parce que c'est un écrivain qui est un des plus novateurs qui soit dans la forme, dans le style, dans la musique, dans la puissance compassionnelle d'ailleurs, évidemment. Et en même temps, c'était un homme qui, quand on l'interrogeait, n'était pas du tout un homme de l'avenir. C'était pas du tout un homme comme certains écrivains d'extrême droite qui rêvaient d'un ordre nouveau. C'était un homme totalement mélancolique, totalement nostalgique. C'était un homme pour qui, au fond, le monde idéal avait juste précédé sa vie. Le monde idéal, c'était le monde de son enfance ou de sa grand-mère. Et il ne s'est jamais guéri de ce monde idéal, un monde imaginaire, naturellement, qui était le sien. Et on voit très bien dans des livres comme Mort à crédit à quel point il idéalise un passé qui n'était pas le sien, c'est celui de sa grand-mère. Et on pourrait dire plus généralement d'ailleurs le monde d'avant la guerre de 14, qui est pour lui le péché originel du monde moderne. Et cette nostalgie-là, cette émotion d'un monde disparu qui sous-tend toute son œuvre. Et qui en même temps, et c'est ça le paradoxe des grands écrivains, un monde et un style et un univers romanesque parmi les plus novateurs qui soient.
Le passé nourrit le présent et l'avenir, selon vous?
Mais bien sûr, je veux dire, malheur non seulement au pays sans mémoire, aux civilisations sans mémoire, mais parler de civilisation sans mémoire, c'est absurde, parce qu'une civilisation, c'est justement la mémoire. Et je pense que pour un écrivain, un robot amnésique est tout sauf un écrivain, tout sauf un romancier. C'est une machine à produire, c'est peut-être, à la rigueur, il produira des séries télévisées dans ce qu'elles ont parfois de plus débile, mais il ne pourra absolument pas écrire. Je veux dire, prenez tous les grands romanciers, ce sont des mélancoliques absolument inguérissables, mais tous les plus grands. Balzac, Stendhal, Proust, n'en parlons pas, Céline, je l'ai dit, Chateaubriand, évidemment, obsédé par ces mondes qui meurent. Mais c'est très curieux, Balzac était l'exemple parfait d'un homme qui était dans ses idées, si je puis dire, un réactionnaire, qui était royaliste, et qui, en décrivant le monde qui était juste derrière lui, cette société qu'il avait connue, mais souvent avec un décalage de 10 ans, 15 ans, était tellement juste qu'il était, par certains côtés, un écrivain, le mot révolutionnaire est un petit peu excessif, mais un écrivain dont la lucidité dans le regard faisait que c'est un écrivain que peuvent utiliser à leur profit même les historiens marxistes, par exemple. Donc il y a toujours ce paradoxe ou cette dialectique entre la mélancolie et ce qui féconde l'avenir. Comment vous dire? Je crois qu'un romancier, c'est quelqu'un qui va passer un an, deux ans, parfois plus de sa vie à inventer un monde, une histoire, des personnages, à se retrancher du monde réel pour écrire dans la solitude et le silence. Et je pense que quelqu'un qui est soit un homme d'action, un homme politique, un révolutionnaire, un penseur progressiste, soit un homme tout simplement heureux de son temps, heureux de son époque, heureux de sa vie, de sa femme, de son chat, de que sais-je, est-ce qu'il va passer tant de temps à se retrancher de ce monde qu'il aime ? Je crois pas. Je crois qu'un écrivain a d'abord en lui un sentiment de profonde mélancolie qui le retire du monde pour opposer à ce monde réel un monde consolant qui est le monde qu'il va inventer. Ce monde qu'il va inventer, ce monde de consolation pour le monde réel, est essentiellement un monde de souvenirs. Et c'est là où les choses sont complexes, évidemment, c'est que ce monde qu'il réinvente et qui le console, ça peut être un monde de révolte d'ailleurs, c'est pas un monde idéalement et bêtement un monde heureux, pas du tout. Ça peut être un monde cruel, un monde... Mais c'est un monde en tout cas qu'il va opposer au monde réel pour mieux le comprendre. Mais aussi c'est ça, le paradoxe, c'est que on se retire du monde d'une certaine manière pour mieux le comprendre aussi. On oppose au monde réel un monde de la fiction, au sens strict du terme. Un écrivain de roman est un écrivain de fiction. Et cette fiction va le remettre en contact, va lui donner plutôt une meilleure intelligence du monde. On ne cesse... Enfin, moi, c'est le sentiment que j'aime pas généraliser en disant les écrivains sont ceci, sont cela. Je parle de moi. Je pense que j'ai vraiment conscience de cette... sans arrêt de cette dualité-là entre ce qui me retire du monde et ce qui m'en rapproche.
À quel niveau le souvenir vous est cher ? Je crois que, d'une certaine manière, les livres et le souvenir font bon ménage.
Oui, en effet, les souvenirs qui me sont chers, c'est ça qui est, c'est très curieux, vous savez.
Peut-être un mot sur votre dernier livre également ?
Oui, bien sûr. C'est que quand on écrit un livre, quand j'écris un livre, parlons pas en général, je préfère parler dans mon propre expérience, on a une idée de départ. Mais si je préfère, c'est comme une pompe qui s'amorce en écrivant. Et les souvenirs... les émotions, ce qui vous importe, ce qui vous touche, ça remonte à la surface comme appelé, aspiré par le mouvement de l'écriture. Tout n'est pas dans la tête avant de l'écrire. Bien sûr, je sais à peu près ce que je vais dire, mais si je prends l'exemple de mon dernier roman, qu'est-ce que c'est que mon dernier roman ? C'est très simple. C'est un livre qui s'appelle Grand Hôtel Nelson. Ce livre, il est né d'une phrase de mon père. Mon père qui avait vécu, et pour cause, pendant de longues années avec son père était mort quand il avait une vingtaine d'années, n'avait jamais été proche de son père. Mon grand-père était un homme qui était athée, qui était rationnel, qui avait écrit beaucoup de livres, qui avait, s'était battu pour Dreyfus au moment de l'affaire Dreyfus. Mon père était tout le contraire. Mon père était un homme de droite, était un homme qui s'est converti au catholicisme à 20 ans, qui avait été élevé loin de son père, plus étouffé, si je puis dire, par l'emprise de sa mère. Et sachant tout ce qu'il différenciait de son père et tout ce qu'il n'avait pas pu connaître de son père, il ne cessait de me dire à moi qu'il sentait intellectuellement, de manière plus ou moins diffuse, plus proche de mon grand-père de lui, me disait toujours « comme tu te serais bien entendu avec ton grand-père ». Et c'était une sorte de regret de la part de mon père que cette phrase lancinante « comme tu te serais bien entendu avec ton grand-père ». Sous-entendu, moi, j'ai pas réussi à m'entendre avec lui. Et au fond, ce livre, « Grand Hôtel Nelson », qui est une forme d'enquête tout d'abord et ensuite de fiction, enquête pour essayer de rassembler des traces d'un homme que je n'ai pas connu puisqu'il était mort en 1933 et que je suis né 11 ans plus tard, en 1944. Dans un premier temps, j'enquête à partir de documents, d'objets, de photos pornographiques, même si c'est le point de départ du livre, au gélatino-bromure d'argent des années 1900, c'est un peu insolite. Et puis d'autres pistes naturellement, parce que mon grand-père était un grand collectionneur. Donc j'enquête et ensuite je... comment dirais-je, une fois toutes les pièces du puzzle en ma main, j'essaie de les recomposer de manière à peu près cohérente pour lancer un roman où mon grand-père va prendre vie. Après les photos immobiles, le cinéma, si j'ose dire, la mise en mouvement de mon grand-père. Tout ça pour répondre à cette question. Donc qu'est-ce qui m'était cher dans ce livre ? Et l'enjeu était grave pour moi. C'était de savoir, est-ce que je me serais bien entendu avec mon grand-père ? Ou si vous préférez, qu'est-ce que je dois à mon grand-père de manière génétique, mais de manière affective ? Par le bien de mon père, en quoi je m'oppose à mon père pour être proche de mon grand-père. Et toutes ces questions, c'est une manière de mieux se connaître soi-même, naturellement. Ça a été l'objet même de ce voyage. Donc on n'est pas, d'une certaine manière, si loin d'ici, de Fès, avec ce voyage initiatique, ce voyage un peu... qui, c'est bien sûr, c'est des voyages religieux. Là, mais c'est pas un voyage religieux, mais c'est un voyage qui me relie. C'est presque la même chose, parce que la religion, c'est littéralement ce qui vous relie les uns aux autres, par une foi, une croyance, que sais-je. Et là, c'est un voyage qui cherche à me relier.
Comme quoi le souvenir peut amener très loin. Vous avez quand même mené des enquêtes, vous avez effectué des recherches. C'est pour amener à quoi au final ?
Écoutez, c'est très curieux parce que la plupart des romanciers écrivent toujours ou presque toujours, leur premier roman sous une forme plus ou moins autobiographique. Ça peut être pas plus ou moins transposé, mais comme si, dans un premier temps, ils réglaient leur compte avec leur passé, avec leurs parents, avec ce qu'ils ont formé pour mieux se comprendre eux-mêmes. Et après, ils larguent des amarres et s'ils sont des grands écrivains, ils peuvent partir dans l'imaginaire. Curieusement, ça n'a pas été mon cas. Mes premiers romans étaient des romans de fiction qui jouaient sur des formes, qui étaient assez formalistes. Mais ces premiers romans n'étaient pas des romans de délivrance au sens strict, des livres qui vous délivrent. Pourquoi ? Peut-être parce que j'étais très pudique. Peut-être aussi parce que mes parents étaient en vie et j'avais peur de les blesser. J'avais peur de blesser la mémoire de mon père qui avait eu des épreuves, qui avait eu des souffrances, qui ne voulait pas en parler. Et non pas par gêne, par embarras, mais par discrétion. Et donc je ne voulais pas, par mes livres, qui n'auraient pas pu ne pas être aussi sincères, le blesser. Et donc j'ai attendu très tardivement, si je puis dire, pour écrire mes premiers livres. Et j'ai le sentiment que les premiers livres que j'ai écrits, c'est une trilogie familiale qui était L'ami de mon père, qui est paru en l'an 2000, puis un autre livre qui s'appelle Clarisse, qui était Le côté de ma grand-mère, et enfin le troisième volet de cette trilogie, qui était Grand Hôtel Nelson, Le côté de mon grand-père. Et c'était des, je dirais, des premiers romans pour moi, en quelque sorte. Des premiers romans que j'ai mis peut-être 40 ans avant de les écrire. Donc j'ai fait toute la maturité pour les écrire et en même temps tout ce besoin pressant qui longtemps accumulé comme une sorte de bouilloire qui commence à fermenter et à un moment il faut que ça y aille, faut que ça explose. Donc pourquoi je les ai écrits ? Je les ai écrits, vous savez, il y a une phrase de Borges que j'aime beaucoup, à qui on posait la question « Pourquoi écrivez-vous ? » Et Borges avait répondu cette phrase admirable « Je n'écris pas pour la masse, cette abstraction que je ne connais pas, ni pour une petite élite qui m'indiffère. J'écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps. » C'est très beau, hein. Je trouve. J'écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps. Et je crois que c'est exactement pour ça que j'ai écrit ces livres. Pour moi d'abord, parce que c'est toujours l'injonction éternelle de tout le monde, connais-toi toi-même. Donc j'ai voulu me connaître moi-même en entreprenant ce voyage. Pour mes amis, parce que les lecteurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est une abstraction, mais par contre les proches, je sais ce que c'est, je sais ce que sont mes lecteurs proches, et je voulais qu'ils me connaissent mieux. Et pour adoucir le cours du temps, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, cette forme de consolation ou d'adoucissement des brûlures, des souffrances, des silences, des non-dits. Vous savez, on vit toujours de l'instant. Je crois qu'il n'y a pas un adulte qui n'a pas, quand ses parents sont morts, quand il devient orphelin. Et il n'y a pas d'âge pour être orphelin. On peut être orphelin à 70 ans ou à 60 ans ou à 20 ans. La souffrance est la même. Quand d'un seul coup, on n'a plus cette barrière qui vous protège de ses parents, à ce moment-là vient le regret. Le regret de ce qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas dit, le regret des affrontements ou des silences ou des malentendus, toute cette forme de qui est déchirante que l'on a. Et au fond, écrire, c'est aussi une manière de rattraper tous ces non-dits, tous ces silences, tous ces malentendus, tous ces simplement, pour certains, ça pourrait dire « j'ai regretté de ne pas dire à mon père, je vous hais ». Pour certains, il y a des romanciers, Hervé Bazin et d'autres, qui ont vécu sur l'imprécation et la haine de leurs parents. Ou alors d'autres simplement qui disent « j'ai peut-être pas su leur dire à quel point je les aimais ». Mais peu importe la réaction des uns et des autres, moi je suis plutôt un affectif qui pourrait dire « je regrette de ne pas avoir parlé à mon père de certaines épreuves qu'il avait vécues, qu'il avait gardées pour lui-même et ne pas lui avoir posé des questions ». Mon père a été 4 ans ou 3 ans et demi en prison, jamais je lui ai posé une question sur ces épreuves, comment c'était. Je ne demandais pas des justifications politiques pour les raisons pour lesquelles il avait été incarcéré, c'était pas ça. Mais simplement un intérêt. Mon père n'en parlait pas par discrétion et moi je lui ai jamais posé de questions.
Pourquoi ?
Parce que mon père était un homme de la réserve, de la pudeur. Il évitait ces sujets lui-même avec des boutades, comme il avait été arrêté et emprisonné. Il disait souvent, pour évoquer ses 3 années de prison, 3 années et 3 ans et demi de prison, il disait « quand j'étais en pension aux frais du gouvernement ». C'était une manière de dire en riant « bon, ben, n'en parlons pas ». Et donc je sentais cette pudeur de mon père, ou ses échappatoires. Mais je le respectais, mais peut-être j'aurais peut-être dû, non pas forcer cette pudeur, mais lui dire, mais oui, d'accord, mais comment c'était ? Parce que j'ai retrouvé, après sa mort, des petites lettres qu'il écrivait à ma mère durant ses années de prison, les questions qu'il posait sur ses enfants. Moi, j'ai été arrêté pratiquement 8 jours après ma naissance. De fait, j'ai quasiment connu mon père quand j'avais 3 ans et demi. Donc pendant les 3 premières années de ma vie, je n'ai pas connu mon père, et pour cause. Donc je voyais à quel point il était attentif, mais tout cela, c'était dur. Bon, attendez, c'est une période, la guerre et l'après-guerre, qui a vu des horreurs sans nom. Mon père n'a pas été la victime la plus pathétique ou la plus pitoyable qui soit. Il y a eu des gens qui ont été déportés, qui ont été massacrés, qui ont été torturés, qui ont été amputés, que sais-je. Et mon père a été une victime relate de la guerre, mais il n'est pas le seul, il n'a pas le privilège d'être le seul souffrant de cette guerre ou de ses conséquences. Il s'en fout de beaucoup. Il n'empêche que, respectant sa pudeur, j'ai peut-être pu laisser croire que ça ne me concernait pas. Ses combats ne me concernaient pas. Je veux dire par là que Avec le recul du temps, aujourd'hui, adulte, observant le temps passé, je sais les gens qui étaient du bon ou du mauvais côté. Pour parler plus concrètement, il y avait des gens qui étaient des héros, des gens qui étaient dans la résistance, il y avait des Français moyens qui se planquaient, il y avait des gens qui étaient pétainistes et qui étaient favorables, en tout cas qui acceptaient la collaboration avec l'Allemagne occupante comme un fait inéluctable qu'il fallait prendre pour soi. Il y avait tous ces cas de figure. Aujourd'hui, je peux avoir un jugement sur ces attitudes-là, et je l'ai ce jugement, mais c'est un jugement sur des idées. En revanche, je n'accepte pas, ou j'ai beaucoup de mal à accepter, la manière péremptoire dont des gens qui n'ont pas vécu des combats jugent les autres. Moi, je ne me permettrai pas de donner des leçons sur les combats que je n'ai pas vécus et que je n'ai pas menés. Parce que qu'est-ce que j'aurais, si j'avais eu 20 ans ou 25 ans ou 30 ans en 1940, qu'est-ce que j'aurais pensé, qu'est-ce que j'aurais fait dans le contexte ? J'aurais peut-être été un héros de la résistance, j'aurais peut-être parti à Londres, j'aurais peut-être été un salopard, j'espère que non, mais j'aurais peut-être été un Français moyen à la Pompidou, mettons, qui a attendu que ça se passe en ne faisant rien. Je n'en sais rien ce que j'aurais été. Je dis Pompidou, attendez, parce que Pompidou, il a succédé à De Gaulle, et donc c'est assez amusant que De Gaulle passe les clés, si je puis dire, du pouvoir à un homme qui n'avait pas été un héros de la résistance, comme avait été Chaban Delmas, avait été Pierre Messmer, avait été tant d'autres compagnons historiques de De Gaulle, mais à Pompidou, qui était un honnête homme, mais qui n'avait pas été un héros de la guerre. C'est pas une polémique de dire ça, c'est une constatation objective, avec toute l'admiration, par ailleurs, que, évidemment, que j'ai pour l'homme politique qui a été Georges Pompidou. Voilà, et donc tout ça, c'est compliqué, je veux dire, c'est complexe, c'est contradictoire. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on écrit pour se consoler, mon premier livre autobiographique, si je puis dire, mon premier roman que j'ai attendu 15 livres pour l'écrire, qui était L'ami de mon père, c'est justement le sujet de ce livre. L'ami de mon père, c'était quoi ? C'était j'inventais un ami de mon père, ou je récréais un ami de mon père, pour pouvoir, en m'imaginant à l'âge de 16 ans, lui poser les questions sur mon père que je n'avais pas posées. Et je me disais, mais comment c'était la prison ? Il me raconte, cet homme. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Mais c'était par une sorte d'opposé à un monde consolant, à un monde réel. J'ai inventé ce personnage. Et j'ai inventé le petit garçon, ou l'adolescent, le futur adulte que j'allais devenir, un été, qui rencontre cet homme un peu étonnant, un peu romanesque. Je ne vais pas raconter l'histoire du livre, L'ami de mon père. Et qui lui dit, mais alors, vous avez été avec mon père, mais comment ? Et l'homme qui n'a pas ses pudeurs, c'est un petit garçon qui est le fils de son ami, mais c'est tout. Il lui raconte. Et c'est au fond... Voilà, c'est une consolation et une urgence en même temps. C'est ce mélange de besoins, de consolation, d'urgence, qui, bon, ça suffit pour nourrir une œuvre littéraire, hein, j'espère en tout cas.
Est-ce que vous, personnellement, vous pouvez dire que le souvenir, la mémoire, a été le fil conducteur de votre vie, d'une certaine manière, ou de vos livres ?
Non.
Dans ce cas, qu'est-ce qu'il a été ?
Voilà, quand je dis non, je réponds de manière un peu abrupte. Je crois qu'en effet, cette trilogie-là, elle est totalement nourrie de cette mémoire-là. Mais j'ai commencé à publier mon premier livre en 1973, et ce premier, je le dis en boutade, ce premier roman que j'ai écrit, c'est en 2000. Donc pendant 27 ans, j'ai fait beaucoup d'autres livres. J'ai le sentiment que tous les livres que j'ai écrits, plus ou moins, ont un côté autobiographique, mais qui me raconte moi-même. Mais j'ai écrit, bon, je ne parle pas des essais, hein. J'ai écrit des essais sur Céline, sur Rossini, sur l'Italie, sur Venise, bon ça c'est autre chose, sur les chats, même sur les chats dans la littérature, dans la poésie, dans la peinture, tout ce qu'on veut. Voilà, j'ai écrit sur Céline, mais si je me dis tous les livres que j'ai écrits sur Céline, pourquoi je les ai écrits ? Alors je suis forcé a posteriori de me dire, bon je les ai écrits parce que Céline est un des plus grands écrivains du XXe siècle, c'est évident, parce qu'à l'origine c'est un travail universitaire, et que quand j'étais en 68 à la Nanterre, il n'y avait rien sur Céline, donc c'était un terrain vierge, c'était formidable d'être le premier universitaire en France à faire une thèse sur Céline, j'étais le premier enfin. Mais aussi, et plus secrètement, je crois que c'était une manière aussi, en parlant de Céline, de me plonger dans un passé douloureux, difficile, contradictoire, violent, insupportable même parfois, de la France idéologique des années 30, et aussi de mieux comprendre que c'est que cette France, par exemple dans le cas de Céline, qui avait été de manière insupportablement antisémite, caractérielle, convulsive, violente, en apparence haineuse dans le cas de Céline, parce que c'est toujours très complexe dans le cas de Céline, mais je voulais essayer de mieux comprendre ce monde idéologique déchiré, parfois raciste, dans le cas de Céline, de cette France des années 30, 40, voilà. Et donc c'était une manière aussi de mieux comprendre le paysage intellectuel dans lequel mon père avait vécu. Alors j'avais pris ce détour là, mais je pense que, j'y avais pas pensé sur le moment, hein, mais je pense que si j'ai passé tant d'années à écrire sur Céline, c'est évidemment parce que c'est un écrivain tellement immense qu'on n'épuise pas le sujet si facilement, mais aussi parce que c'était une manière aussi de mieux comprendre cette époque. D'autres livres, j'ai écrit une trilogie italienne, j'appelle italienne, sur trois héros français en Italie entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. l'un qui a d'ailleurs eu le grand prix du roman de l'Académie française qui s'appelait La Comédie de Terracina, où je mettais en scène deux des personnages que j'aime le plus au monde, qui sont Stendhal et Rossini. Et j'imaginais leur rencontre dans cette petite ville de Terracina à mi-chemin entre Rome et Naples. Et là, c'était mon, comment dirais-je, un peu mon contrepoison à Céline. C'était deux personnages qui sont profondément heureux ou qui sont en tout cas obsédés par la recherche du bonheur, dans le cas de Stendhal. Et une des musiques les plus sublimement, je dirais frivoles en apparence, celle de Rossini. Mais dans un autre roman qui s'appelait Esther et le diplomate, j'ai créé un personnage qui est probablement le plus proche de moi que j'ai jamais tenté d'écrire. C'est-à-dire, c'est un personnage qui était un personnage français inspiré d'un personnage réel, plus ou moins, un diplomate français en 1793, juste au moment où le roi Louis XVI est décapité, donc au tout début de la République, et qui est envoyé en Toscane, et qui existait vraiment d'ailleurs, ce personnage, sous une autre, un petit peu une forme un peu différente. Et ce personnage est au fond un représentant des idées nouvelles, avec cette générosité de la France républicaine, mettons, et en même temps un inconsolable du passé qui devient un grand collectionneur de peinture. Et j'ai toujours eu en moi ce sentiment de cette dualité-là. J'ai travaillé pratiquement toute ma vie au Nouvel Observateur, qui est un journal grosso modo progressiste, et dont j'acceptais naturellement les idées généreuses. Sinon, je n'aurais pas écrit dans ce journal. Donc j'étais assez proche de l'Observateur et de ses idées, de cette social-démocratie, pour parler d'une manière très très vague, que défendait toujours l'Observateur, avec un paysage idéologique qui passerait, mettons, par Mendès France, Camus, etc. Et d'un autre côté, je suis quelqu'un, j'allais dire un peu en provocation, de totalement réactionnaire, en tout cas de totalement en réaction avec le monde moderne. Je suis, encore une fois, j'écris, donc je me console, donc je me replie dans le passé. Et ce personnage-là était un personnage qui était exactement moi. C'est-à-dire un personnage qui représente activement, comme moi j'étais journaliste toutes les semaines au Nouvel Observateur, qui est dans le monde réel et qui doit y être, lui sous forme de la diplomatie, moi sous forme de journaliste, et en même temps qui s'intéresse au... C'est-à-dire qui apporte les idées nouvelles et qui rapporte les tableaux anciens, si j'ose dire, par une boutade pour mon héros en Toscane. Et je crois n'avoir jamais créé un personnage aussi ressemblant de moi, comme une sorte d'autoportrait, de portrait de l'artiste en diplomate français en Toscane en 1693, que dans ce livre. Donc, même si on écrit des romans qui ne sont pas des ouvrages de recherche directement de la mémoire, à un moment donné, si on est un écrivain sincère, si on ne cherche pas les trucs, les procédés pour refaire toujours le même livre, pour avoir du succès, pour plaire au public, je pense que c'est ça le miracle de l'écriture. C'est comme si vous voulez, comme, je ne sais pas, si vous lancez dans une cuvette une bille très loin, à un moment donné, elle revient toujours vers le centre, quoi. Et on peut s'amuser à faire un roman extravagant, comme j'ai écrit un roman qui s'appelle Charles et Camille, dont le héros est un officier français, des gars, qui va se retrouver à Venise après avoir défendu le roi au moment des Tuileries et de la chute de la royauté le 10 août 92. Et bien avec ce personnage, ou un personnage annexe, et c'était là, j'avais inventé un autre personnage d'un mélancolique absolu qui était contre lui, c'était donc, j'avais éclaté, si je puis dire, ce que je suis en deux personnages qui s'opposaient, en racontant quelque chose que j'ai toujours considéré comme une catastrophe, c'est la chute de la République de Venise. J'avais une passion pour Venise, et c'est cette République qui avait duré 1000 ans, et qui d'un seul coup s'écroule au moment de la conquête de l'Italie par Bonaparte en 1596-97. Cet État qui avait duré 1000 ans sans un coup d'État, sans un changement de constitution, sans rien, et qui d'un seul coup tombe au moment de l'arrivée des troupes de la République française. Et là, j'avais opposé à ce personnage positif, actif français, un personnage d'un aristocrate vénitien qui voit ce monde qui meurt et qui n'en se remet pas. Et là aussi, j'avais, comment dire, en deux personnages, exposé les deux facettes de ma personnalité. Donc, vous voyez, même si on écrit des romans, même si on écrit des fictions, même si on n'écrit pas directement sur la mémoire, comme pour répondre à votre question quand je vous ai répondu de manière un peu abrupte, non. D'un autre côté, et c'est ça qui est formidable dans le roman, c'est qu'on se retrouve toujours soi-même.
Si vous le permettez, pourrions-nous dire un mot sur l'Académie, un lieu gorgé de souvenirs? Quel effet ça vous fait, tous les jeudis, ou du moins à la commission du dictionnaire, de siéger et finalement d'être entouré comme ça de fantômes, de personnes qui ont vécu, de personnages illustres, qui ont été au fil du temps membres de l'Académie? Quel effet ça vous fait? J'aimerais bien que vous me parliez du souvenir et de l'Académie.
Alors, ce que ça me fait, d'abord, je n'en reviens pas. En un sens, que j'ai toujours eu le sentiment que toutes les récompenses que j'ai pu avoir, les prix, les hommages qui m'ont été rendus, sont toujours le fruit d'un malentendu, que je suis un imposteur et que qu'est-ce que je fais là parmi tous ces gens-là? Et franchement, quand j'ai été élu à l'Académie française, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, j'en reviens une petite parenthèse à mon père. C'est que mon père, qui était un rêveur par son côté, quand j'ai commencé à écrire des livres, dès mon premier livre, il était un peu inquiet de me voir quand même embrasser une carrière littéraire qui est par définition aléatoire. Et il se disait, bon, Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour lui? Un best-seller, c'est un peu vulgaire, le succès est toujours empreint de malentendu. Un prix littéraire, ça s'oublie. Bon, c'est la gloire un an, puis un an et demi après, c'est fini. Et pour lui, pour mon père, la consécration d'un écrivain, c'était l'Académie. Et dès mon premier livre, il n'arrêtait pas, si je puis dire familièrement, de me bassiner. « Quand tu seras à l'Académie française, ce qui ne saurait tarder », me disait-il toujours.
Donc il y croyait dur comme fer.
Non, c'était un rêveur, c'était un château en Espagne. C'est comme quand on me dit à un gamin qui s'engage dans l'armée « quand tu seras maréchal de France ». Il n'y croyait pas, c'est un rêve inaccessible. Mais c'était une obsession pour lui qui pouvait le rassurer. « Quand tu seras à l'Académie ». Je disais « papa, c'est pas drôle, arrête, tais-toi ». Voilà. Et puis, il s'est trouvé un moment, en l'an 2000 à peu près, au moment où j'écrivais L'ami de mon père, juste après avoir écrit L'ami de mon père, que les concours de circonstances ont fait que certains académiciens se sont approchés de moi, m'ont dit oh ben, on vous a donné il y a 6 ans le grand prix du roman de l'Académie française, peut-être que le moment serait peut-être venu de vous présenter. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe. On se présente naturellement de son plein gré, avec tous les risques d'une élection ou d'une non-élection. Mais rares sont les académiciens qui ne viennent pas après quelques petits mots plus ou moins explicite ou plus ou moins amicaux d'académiciens qui vous disent « je pense que vous seriez le bienvenu, on ne peut rien vous garantir, évidemment ». Et voilà. Et donc, j'ai été élu, et en même temps du premier coup, ce qui était un miracle, et le jour où on m'a téléphoné, j'étais chez moi, et la veille, je me disais « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je me suis présenté ? Quel plaisir recevoir une porte qui va vous claquer au nez ?» Et à 3h30, on y votait vers 3h, 3h15, vers 3h30, 4h15, le téléphone sonne. Et je dis à ma femme, réponds s'il te plaît. Ah mais non, tu t'es présenté, tu dois répondre. On a discuté pendant 2 minutes, non réponds, non réponds. Finalement, j'ai répondu, et eu la voix du chef de cabinet d'Hélène Carré-Dancausse, qui était déjà secrétaire perpétuel, qui me dit Frédéric Vitoux, je dis oui. Et il me dit, bon alors j'ai le plaisir de... Alors, bon, ça suffisait, j'avais compris. Elle va pas dire, j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes battu, ça aurait été peu étonnant. Bref, il me dit, je suis élu, je raccroche, et ma femme et moi, on tombe dans les bras l'un de l'autre en disant, mon père est mort il y a 6 ans, qu'est-ce qu'il aurait été heureux. Mais quel bonheur pour lui qui avait eu des épreuves, des humiliations, des difficultés dans sa vie, qui avait voulu écrire des livres et qui ne les publiait pas parce qu'il n'avait pas d'éditeur. Tout ça, et alors pourquoi je me suis présenté à l'Académie ? Avant la consécration, avant la gloire, avant le prestige, les honneurs, que sais-je ? Je pensais à mon père, à sa phrase. C'est pas la seule raison, évidemment que c'est pas la seule raison, mais j'y ai pensé beaucoup. Alors une fois que j'ai eu le privilège de pénétrer et d'être membre de cette compagnie, parfois je me sens très intimidé, je vous le dis franchement, très intimidé par les grandes figures de l'Académie. Quand je me suis retrouvé en côté de Claude Lévi-Strauss, quand je me suis retrouvé à côté de François Jacob. Et là, avec François Jacob ou Claude Lévi-Strauss, je dois dire, je ne respecte pas une règle à l'Académie. C'est la règle à l'Académie, c'est qu'on dit monsieur à tout le monde, qu'on soit président de la République. On est tous égaux, c'est la règle de l'Académie, on dit monsieur. Et ben, et Claude Lévi-Strauss, monsieur le professeur. Je ne pouvais pas ne pas dire monsieur le professeur, et je le dis à François Jacob toujours. Parce que les seuls titres qu'on donne, vous le savez, à l'Académie, c'est les titres qui sont académiques. C'est-à-dire monsieur le chancelier ou chancelier de l'Institut, ou madame le secrétaire perpétuel. Mais on ne dit pas monsieur le ministre, on ne dit pas monsieur le président de la République, ou monsieur le... que vous voulez. Donc d'abord, j'étais intimidé par la qualité, non pas par la célébrité, ça. La célébrité, ça, c'est très bien, mais... par des grandes figures, surtout tant que c'était des mondes qui n'étaient pas les miens. Si je vois Éric Orsenna, ou si je vois Félicien Marceau ou Michel Déon, ce sont des gens que j'aime, que j'admire, mais avec qui j'ai des sentiments, je dirais, de respect fraternel avec Félicien Marceau ou avec d'autres écrivains. Mais avec des gens comme Jacqueline de Romilly, comme Pierre Moineau, qui est mort depuis, hélas, et qui était devenu un ami très cher, ou devant François Jacob ou Lévi-Strauss, comme je voulais. D'abord, c'était le respect et une certaine forme de timidité vis-à-vis de ces gens-là. Même Pierre Messmer, c'était pareil. Ça, c'est d'abord cette timidité. Et ensuite, un sentiment profond de joie et de privilège de dire quelle chance j'ai toutes les semaines de pouvoir les retrouver, de bavarder avec eux, de discuter des mots. Et bien sûr, on discute des mots, on se dispute sur des étymologies, sur des définitions, mais c'est un jeu intellectuel qui est exaltant. Au-delà même de la finalité du dictionnaire, qui n'est pas médiocre d'ailleurs, mais ce privilège de discuter avec ces gens-là, c'est formidable. D'être avec, bon, moi c'est plus le cas parce qu'elle est très souffrante, Jacqueline de Romilly, mais puis je la connaissais un petit peu avant de me présenter, mais de me retrouver avec, je sais pas, Fumaroli, avec Michel Serres, enfin je pourrais citer, je vais citer tous mes confrères, bien entendu. C'est d'abord, je vous dis, d'abord la timidité devant des gens, des grandes figures qui me sont étrangères, la joie et le privilège de les retrouver chaque semaine. Et vraiment, pour moi, c'est formidable.
Quand vous pénétrez dans cette petite salle avec ce grand portrait de Richelieu, vous ressentez quoi ?
Que la copie est assez médiocre. Non, là, je réponds pour une boutade. On met du temps à l'apprivoiser, ce sens de la cérémonie. Non, ce que je ressens, c'est quelque chose d'assez contradictoire là aussi. C'est le sentiment que l'Académie, qui est après le Collège de France, je crois, la plus vieille institution de France en exercice, hein, l'Académie française de 1635, j'ai le sentiment de pénétrer dans cette salle, même si elle date que du début du XIXe siècle, puisque l'Académie se réunissait au Louvre avant la Révolution, sentiment de pénétrer dans un lieu immobile, dans un lieu hors du temps, qui a gardé le sens des cérémonies, des codes, des usages. On se donne la parole, on se vouvoie, même si une seconde après on va se tutoyer en sortant de la séance. Donc à la fois d'un monde totalement hors du temps et immobile, avec toutes ces règles de fonctionnement, et en même temps le sentiment que ce point fixe, ce point de solide, immobile, est finalement le meilleur belvédère, si je puis dire, pour observer le monde et son évolution. Car pour observer un mouvement, il faut être fixe et on le voit bouger et on l'accompagne et on le commente et on peut agir sur lui. Et je pense qu'il faut des points fixes dans une société pour mieux observer le mouvement. Et donc j'ai ce sentiment, vous voyez, quand je parlais de contradiction apparente, d'être un lieu hors du monde, de ses modes, de ses frivolités. Et de ce monde-là, on observe très très bien. Je prendrai un exemple si vous voulez pour observer le sentiment. Lorsqu'il y a eu la grande crise économique avec la crise des subprimes, les faillites, etc. il y a 2 ans, on a demandé à notre confrère Valéry Giscard d'Estaing de nous exposer les raisons de la crise. Il a accepté très gentiment et il nous a fait, à la compagnie, pendant 45 minutes, une heure, un exposé admirable de cette intelligence remarquable de Valéry Giscard d'Estaing, ce sens de la synthèse. Et là, on se disait, dans ce petit monde bloqué là, on a quelqu'un qui nous explique le monde qui bouge. Et il le fait avec un sens de la synthèse et on est tous sortis un peu moins bêtes. Ou un peu plus intelligent sur les grands mouvements, on avait beau être inondé d'articles, de lectures, d'émissions de télé, de journaux télévisés, que sais-je, avec lui, justement dans ce petit lieu de silence, en dehors du monde, qui est cette grande salle avec ce portrait en pied, une copie de Philippe Champagne, on avait le sentiment d'être un peu plus intelligent sur le monde qui bouge. Donc c'est ça, voilà, pour moi c'est ça. Hors du temps et pour mieux comprendre le temps et ses mouvements.
Et merci à vous de prendre le temps pour répondre à ces questions. Une dernière, une toute dernière, le souvenir et Lévi-Strauss qui nous a quittés depuis peu, que vous évoquiez. Auriez-vous la gentillesse de nous dire un mot sur lui ? Vous disiez être intimidé. Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous inspirait chez lui ? Quel souvenir vous gardez au-delà de l'intimidation ?
Oui, bien sûr, parce que je vous parlais de la timidité ou du respect que cet homme m'inspirait, mais je ne limiterai évidemment pas à ça les contacts que j'ai pu avoir avec Claude Lévi-Strauss. Je pense que Claude Lévi-Strauss était un homme à l'Académie parmi les plus silencieux, en ce sens qu'il ne prenait pas délibérément la parole. Il était un peu un observateur de nos débats, de nos discussions sur les mots, sur les définitions. Mais quand il y avait un problème, quand il y avait une difficulté, par exemple, je ne sais pas, je pourrais dire n'importe quoi, il y avait le mot « réécrire ». Et on peut dire « réécrire » en un mot ou « réécrire ». Alors on se demandait s'il y avait une nuance sémantique entre « réécrire » et « réécrire ». Et on se disputait. Et dans ces cas-là, cet exemple-là est un exemple parmi d'autres, mais j'en pourrais en trouver d'autres, on se tournait vers lui et on disait « quel est votre point de vue ?» Et il prenait la parole et tout le monde s'inclinait. En 2-3 phrases... Il faisait taire tous ceux qui s'étaient déchirés, Fumaroli, Michel Serres, Jean-François Revel, disputés au sens de la disputatio, enfin et qui étaient tous brillantissimes. Je ne sais pas ce que je veux dire, hein, comprenez-moi bien, je ne veux pas dire qu'il les mettait comme des petits garçons, pas du tout. Mais il avait un sens de la synthèse, et je pense que tout le monde était disant « oui, c'est ça, merci monsieur professeur, voilà, c'est ça, oui, vous avez raison ». Entre écrire de nouveau ou bien écrire à la place, il y a une nuance. Et c'est exactement ça qu'il fallait dire. Et ça, je l'ai toujours remarqué. J'ajouterais que c'était, à titre personnel, l'homme probablement le plus confraternel à l'Académie et le plus courtois. Vous savez, tous les académiciens écrivent des livres. Bon, on envoie ces livres à ses confrères. Claude Lévi-Strauss était le seul des académiciens qui, aussi vite, me répondait, non pas une lettre « merci, cher confrère, de votre livre », mais répondait des lettres de 2, 3, 4 pages en commentant les livres. Et c'était vraiment, encore une fois, bien sûr, d'autres confrères m'en parlent, d'autres ne l'ont pas lu, d'autres ont des mots courtois. Il y a toutes des attitudes qui sont toutes légitimes. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss qui m'a envoyé des lettres admirables sur mes livres et qu'il les avait lues. Et même un livre en apparence assez frivole, comme un livre comme Le Dictionnaire amoureux des chats, il me parlait des chats. Vous savez qu'à la fin de Triste Tropique, ça se termine sur un chat. Il avait une passion pour les chats et donc on sait qu'il y a des pages admirables sur les chats qui, à la dernière page, eh bien, je sais que les chats, c'est un sujet qui l'intéressait. Il commentait mon dictionnaire, il m'a fait des exemples. Il atteignait 100 ans. De sa main, c'est pas dicté à une secrétaire, de sa belle écriture comme ça, il écrivait des lettres. Et ça, cet esprit de haute valeur, qui était aussi l'homme le plus courtois et le plus attentif, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier chez Claude Lévi-Strauss.
Merci beaucoup Frédéric Vitou pour ce témoignage et ce beau commentaire sur le souvenir, la mémoire émotionnelle, un thème qui vous est cher.